Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. J'ai rencontré l'autrice de BD Véro P sur les réseaux sociaux. J'ai aussitôt aimé son dessin et son écriture, toujours distanciée, plein d'humour et de finesse. Elle parle extrêmement bien des relations enfant-adultes et des relations maître-élève. J'ai beaucoup ri en lisant le CID en 4e B, dont voici un passage dans lequel les élèves cherchent le vocabulaire du CID dans le dictionnaire. Passionné, c'est quoi ? Je t'aime un peu beaucoup passionnément. Tu connais pas ça ? Il y a les fruits de la passion aussi. L'affection, c'est plus ou c'est moins que l'amitié, tu crois ? Abhorrer, c'est avoir en horreur, ils disent. Donc c'est négatif. Madame, s'indigner, ça a à voir avec les syndicats, non ? Vas-y, écoute pas ce qu'on dit, toi ! Retourne-toi ! Arrête de copier ce qu'on te dit ! Et si on réussit les mots croisés, on gagne quoi, 5 euros ? On pourra se faire un grec ? Tu veux un soufflet ? Arrête de me mettre des soufflets ! Je vais lui parler comme ça à ma mère. Je me blâme d'avoir eu 6 en maths. Elle va rien capter. J'exècre ton comportement, ma fille. Vais-je me prendre un soufflet dans ma face ? Cessez de vous quereller. Quel outrage infâme ! On m'a pris mon 4 couleurs ! Cela m'a rappelé mes années de professeur en collège, en zone d'éducation prioritaire et l'étude des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas en classe et la fierté d'entendre dans la cour « En garde, monsieur !» ou « Vous me rendrez compte !» En novembre, j'ai enfin rencontré Véro P au salon BD Boom à Blois et je lui ai proposé de venir faire 2 ateliers BD avec mes élèves de la Nouvelle Chance au Mans avec comme objectif de réaliser 2 réécritures. Une planche sur l'homme et la couleuvre de La Fontaine et une planche sur un extrait des Fausses Confidences de Marivaux. Il s'agissait de pratiquer la pédagogie de détour avec des élèves phobiques scolaires. Ces ateliers ont été des moments forts d'apprentissage et de partage. J'ai donc proposé à nouveau à Véro P de faire un atelier dessin de presse, cette fois, avec mes élèves de seconde sur la thématique du concours du Clémy de Nantes, Sauver la planète. Après la réalisation d'un dessin de presse par chaque élève, un groupe d'une dizaine d'élèves est resté pour réaliser une interview de Véro P. Voici la première partie de l'interview.
Vous aviez suivi des formations ?
Alors non, j'ai pas suivi de formation. Moi, j'avais fait à la fac, j'ai fait quasiment en même temps arts plastiques et lettres modernes à la fac. Et arts plastiques, en fait, c'est un peu le prolongement de ce que vous avez fait au collège. Hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup de la réflexion, du décollage, de la 3D, mais c'est pas tellement graphique. Donc j'ai pas tellement suivi de cursus, mais ça existe. Hein. Il y a une très bonne école de BD à Lyon. Il y a une école à Tours où je donne des cours de scénario d'ailleurs, mais qui est une école privée qui est assez chère. Moi, c'est vrai que quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans, je ne conseillerais pas forcément de faire une école privée chère qui mettrait peut-être potentiellement longtemps à rembourser, bon, à moins que les parents aient des gros moyens. Mais il faut essayer, je pense, d'aller dans une école publique qui va avoir peut-être une entrée un peu plus sélective, mais où derrière, peut-être à un peu plus de contact. Je ne sais pas. Il me semble que c'est...
Les beaux-arts, ça peut être bien ou pas ?
Les beaux-arts, pour moi, non, pas trop. C'est vraiment école d'art graphique qu'il faut faire. Il faut faire une école d'art graphique. Il y a l'école Émile Cole à Lyon... Il y en a d'autres. Après, moi, je suis à Brassard. Je pense que c'est une très bonne école pour les arts numériques, etc. Maintenant, je dis ça, j'y suis justement en section art graphique. Donc, je ne vais pas dire que c'est nul ce qu'on fait, parce que ce n'est pas le cas. Et que, voilà, c'est des élèves qui ont un bon niveau, en plus. Je trouve juste que l'investissement financier est tel qu'après, vu ce que tu gagnes, je trouve que c'est compliqué de t'y retrouver. Voilà. Mais Après, ça a le mérite d'exister dans beaucoup de villes. Donc, ça peut être aussi une solution de rester près de chez soi. Enfin, ça dépend des cas de figure. Mais... Parce que à côté de ça, moi, j'ai regretté de ne pas avoir fait d'école. Tu vois, parce que y a plein de choses qui m'auraient été facilitées.
Déjà sur la certitude de bien dessiner, je pense.
Peut-être, peut-être. Peut-être que ça m'aurait donné une légitimité. Ouais, ouais.
Est-ce que c'était facile de dessiner au début ?
Au début, ça dépend ce que tu appelles le début. À quel moment ?
Quand vous avez commencé à vous faire connaître. Et
tout quand ça. J'ai commencé à dessiner de façon professionnelle, quoi. Ce qui est difficile quand on commence à se faire ce genre de métier de façon professionnelle, c'est que justement on n'est pas professionnel du jour au lendemain comme quand on a fait une école ou des études et que on a son diplôme et puis ça y est, on est professionnel, même si là aussi on peut se poser des questions parce qu'on est débutant. Là, c'est que tu deviens professionnel au fur et à mesure et tu as toujours un peu, mais je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont dans la vie sur d'autres domaines, tu as toujours un peu le complexe de l'imposteur. Tu te dis... « Ah non, pourquoi moi ? Pourquoi c'est moi qui dessine ? Pourquoi c'est moi qui publie ? Il y en a plein qui dessinent mieux que moi. » Donc non, je dirais pas que c'était facile, parce que c'est vrai que moi, encore maintenant, où là j'ai publié 3 BD et que je suis en train de publier quelque chose en ce moment aussi de façon numérique, encore maintenant, je sais très bien qu'il y a plein de gens qui dessinent beaucoup mieux que moi. Donc non, c'est jamais facile pour moi de dessiner, parce que chaque fois que je dessine, je suis insatisfaite. J'ai l'impression que c'est jamais assez bien ce que je fais.
Vos transpirations ?
Alors mon inspiration, elle vient beaucoup de ce qui m'entoure. C'est-à-dire que je ne fais pas partie de ces gens qui arrivent à écrire des choses imaginaires, comme je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui lisent de la fantasy et tout. J'arrive pas du tout à être dans ces univers-là. Moi, je m'inspire de ce que j'ai autour de moi. Ma première BD, c'était Raoul en milieu naturel. Ça s'inspirait de mes enfants. Et surtout de mon fils aîné quand il avait 4 ans, qui disait qu'il n'était jamais d'accord avec tout ce qu'on lui demandait de faire. Et puis, ma deuxième BD, elle s'est inspirée de mes élèves. Après, j'ai fait une réécriture des fables. Bon, bah forcément, qui s'inspirait des fables de La Fontaine, mais aussi de ce que je voyais autour de moi. Et là, la série que je publie en ce moment sur Instagram, sur un média numérique, ça s'inspire de mon expérience de prof. Donc, on ne peut pas dire que j'ai beaucoup d'imagination.
Comment avez-vous commencé à vous faire connaître et à devenir professionnel?
Ça a été très progressif. Au début, j'ai publié un blog. Donc, c'était l'ancêtre de Facebook, qui est déjà un ancêtre pour vous. Et c'était... Donc, avant tout ça, ça s'appelait Tumblr. C'était un modèle de blog où j'envoyais des dessins. J'en ai envoyé un par jour pendant très longtemps. J'ai fini par être repéré par une maison d'édition. J'ai publié mon premier album. Mais là, j'étais encore prof. Et en fait, je suis devenue professionnelle au fur et à mesure. J'ai pas fait une école de BD, ça existe, hein, mais bon. C'est quand même un peu risqué de faire une école de BD, parce que c'est pas un métier où on gagne beaucoup. Donc je suis devenue une professionnelle au fur et à mesure. Donc voilà, donc j'ai été connue comme ça grâce à ce blog, qui a été ensuite transformé en album grâce à une éditrice qui m'a proposé de le transformer en album. C'est comme ça que j'ai mis un pied dans la BD et que j'ai fait ma première BD. Sinon, je sais pas si je serais rentrée dans la BD. Ça a été un peu hasard, j'étais encore prof à ce moment-là, j'avais de quoi gagner ma vie.
Moi, je t'ai découverte par Facebook, par exemple.
Oui.
Et c'est comme ça que j'ai acheté le site en 4ème B. Donc ça marche bien, en fait. Et puis là, Pot de Prof, par exemple, qui est sur Instagram, et c'est Dargo qui le publie, c'est pareil, je pense que ça permet de se faire connaître, en fait. On dit du mal des réseaux sociaux, mais ça permet de pouvoir s'exprimer en sécurité aussi, je pense.
Alors, je dirais plus ou moins en sécurité. Ça, je me sens pas forcément en sécurité sur les réseaux sociaux. Par contre, c'est vrai que je sais ce que je leur dois. Ça m'a permis vraiment de me faire connaître. Et c'est pour ça que Instagram, j'ai publié pour Instagram, alors même que j'essaye régulièrement de me déconnecter, d'être moins sur les réseaux sociaux. Parce que là, je sais que c'est une façon pour moi de passer une marche supérieure par rapport au public. Parce qu'en fait, le fait de se faire connaître, c'est long. Alors après, il y a des gens, ils se font connaître d'un coup, ils ont un truc qui buzz à fond. Moi, j'ai jamais eu ça. Donc c'est vrai que là, d'avoir cette visibilité-là sur Instagram, pour moi, c'est important. Mais j'aime pas trop ça, en fait. Là, tous les gens qui commentent, chaque case, qui donnent leur avis, je le vis pas très très bien. sur un gros public comme ça, je trouve ça difficile.
Oui,
c'est pas comme ma page, où là, ma page, les gens, ils me connaissent bien, ils sont pas très nombreux.
C'est ça.
Voilà, là, c'est...
Là, oui, c'est Dargaud, hein, c'est un des plus gros éditeurs, donc à chaque fois qu'il y a une publication, dans la journée, il y a au moins entre 1000 et 5000 j'aime, donc ouais. On passe à autre chose, quoi. Effectivement, les gens commentent. Et puis, bah, comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, les commentaires sont pas forcément...
Bah oui, ils disent tout ce qui leur vient un peu à l'esprit, quoi.
À quel âge vous avez commencé à dessiner ?
Alors, les dessinateurs de BD, ils disent souvent, oui, la différence entre nous et les autres, c'est que nous, on n'a jamais arrêté de dessiner. L'air de dire que tout le monde a toujours dessiné. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je ne le valide pas forcément. J'ai 3 frères et sœurs. Il y en a qui n'ont jamais dessiné tellement. Donc je n'ai pas le sentiment d'être comme ça, parce que j'ai dessiné pendant un moment, j'ai arrêté, j'ai repris. Mais c'est vrai que peut-être que les vrais dessinateurs se sont jamais arrêtés de dessiner. Ils dessinent tout le temps, ils vivent avec le crayon à la main. Moi, c'est pas mon cas.
Est-ce que vous avez toujours des thèmes à respecter quand vous dessinez ?
Ça dépend. Alors si je dessine pour faire une BD ou un album... C'est moi qui vais proposer un projet à l'éditeur, parce que je suis scénariste aussi, c'est-à-dire que c'est moi qui imagine aussi l'histoire. Donc je fais le scénario et le dessin. Donc là, c'est moi qui imagine l'histoire, j'envoie quelques pages à différents éditeurs, et là, je vois si ça les intéresse ou pas, et puis si ça les intéresse pas, c'est-à-dire qu'il va falloir que je change de sujet. Là, ça m'est arrivé, par exemple, sur un projet, je voulais faire une BD autour de la rando vélo, parce que moi, j'en fais avec mes enfants, je trouvais que ça pouvait être marrant, visiblement, les éditeurs, non, donc... C'est tant pis, ce projet-là, pour moi, il est mis de côté, pour le moment, peut-être que voilà. Et puis d'autres projets, je les présente et ils sont pris. Donc là, c'est moi qui choisis. Par contre, quand je travaille pour la presse, comme je vous ai montré, là, les dessins de presse, etc., il m'arrive souvent... Là, par exemple, en ce moment, je travaille pour une revue qui s'appelle L'éléphant junior. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que L'éléphant est plus connu, qui est pour les adultes. C'est un MOOC, comme on dit. C'est une revue, une grosse revue qui est entre la BD et la revue. Et entre le livre et la revue, et l'éléphant junior, par exemple, ils me reprennent beaucoup parce qu'ils trouvent souvent que je suis trop vulgaire. Et c'est pour des 8-13 ans. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec des collégiens, souvent en REP et tout ça. Et d'ailleurs, je suis pas sûre qu'on soit beaucoup plus vulgaire en REP ou en ZEP qu'ailleurs. Mais voilà, et donc c'est vrai que ça me choque pas, les gros mots, c'est pas quelque chose qui me choque, j'en utilise facilement. Et souvent, ils me reprennent l'éléphant junior, ils me disent ah non, ça c'est trop vulgaire, on peut pas. Faire ça à nos lecteurs, voilà. Donc la presse, ils vont plus me dire non, ça va pas, ça. Il faut reprendre, c'est où parfois ça peut être c'est pas compréhensible, parfois voilà, c'est pas forcément sur les questions des niveaux de langue d'ailleurs.
Qu'est-ce que vous préférez dessiner ?
Alors moi, ce que je préfère dessiner, c'est ça, la tête jusqu'au buste. J'aime pas trop dessiner les jambes et les pieds, quoi. Pour moi, c'est vraiment le plus compliqué. Et de façon générale, j'aime mieux faire les personnages. Il y en a qui aiment mieux faire les décors. Il y a même des... J'ai un collègue dessinateur à Tours qui ne fait que les décors. Je ne sais pas si vous connaissez la BD 14-18.
Si.
C'est Loïc Chevalier. Et vous allez regarder sur la couverture, il y a le coloriste, le scénariste. Et ils sont, je crois, 2 ou 3 dessinateurs. Il y en a un qui fait les personnages et un qui fait les décors. Et donc Loïc, il ne fait que les décors. Et c'est vrai que non, moi, je suis... Et c'est là aussi que je vois que je ne suis pas, peut-être pas une vraie dessinatrice, ou en tout cas, je suis une dessinatrice paresseuse. J'aime pas faire les décors, les perspectives, voilà. Et dans ma BD qui parle de mes élèves, le CID en 4e B, là, ça m'arrangeait bien parce que mes élèves sont toujours derrière une table. Donc en gros, je les dessinais que de là à là. Et d'ailleurs, souvent, l'éditeur, il me disait « Non, mais attends, une fois de temps en temps dans la page, il faut quand même dessiner leurs jambes, quoi. Parce que sinon, ça fait des élèves troncs. » Donc voilà. C'est un peu comme ça qu'on les voit. Mais c'est vrai qu'il me disait, ouais, de temps en temps, c'est bien d'avoir un plan d'ensemble, qu'on puisse voir quand même qu'ils existent en entier.
Est-ce que vous êtes professionnelle en dessin à plein temps ?
Eh bien, je suis à plein temps sur le dessin, en effet, depuis, je crois, c'est ma 4e rentrée sans élève, puisque donc avant, j'étais prof. Et donc, j'ai demandé une disponibilité de l'éducation nationale. Ça veut dire que je quitte l'éducation nationale, je ne suis plus payée, je touche 0 euro. Je ne peux pas toucher le chômage quand je suis en disponibilité. Parce que je ne voulais pas démissionner. Si on démissionne, on perd son CAPES, tu sais, le concours pour devenir prof. Et je n'étais pas sûre que je ne reviendrais pas, parce que c'est quand même un métier que j'ai beaucoup aimé, et dans lequel j'ai trouvé beaucoup de plaisir. Mais voilà, donc j'ai arrêté comme ça. Et progressivement, oui, là maintenant, je vis à 100% de ça. Mais en faisant beaucoup de choses, en travaillant aussi pour la presse, en faisant beaucoup de choses. Là, je fais des choses... Enfin, voilà, on fait des choses qui sont plus ou moins valorisées, plus ou moins intéressantes. Là, parmi les choses qui me font vivre, il y a des jeux illustrés dans un magazine qui s'appelle Sorcière. Je ne sais pas si vous avez des petits frères et sœurs. Et voilà, dedans, bah, je fais un jeu illustré tous les mois. C'est pas hyper intellectuel, mais en somme, je ne peux non plus de le faire. C'est, voilà, et ça fait partie des choses qui me font gagner ma vie.
Je vous invite à lire Le Cid en 4e B, Le Renard, le Corbeau et tous leurs poteaux, ainsi que Peau de Prof sur l'Instagram Matin Quel Journal de Dargo. C'était la première partie de la rencontre avec Véropée,